Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Pendant cette 9e série d'études consacrée à ce livre, nous abordons les chapitres 32 à 34. Romuald nous rejoint pour nous faire part de ses réflexions. Mais pour commencer, il va nous rappeler l'histoire racontée dans les 30 premiers chapitres du livre de l'Exode. Romuald, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage en Égypte. Cependant, le Dieu unique, le Tout-Puissant, intervient pour libérer ces gens. Et par l'intermédiaire de Moïse, il les conduit à travers le désert vers les pays promis de Canaan. Au chapitre 32, le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Moïse, quant à lui, est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu et y recevoir les 10 commandements. Mais lorsque Moïse est sur la montagne, le peuple de Dieu demande à Aaron de leur fabriquer une idole, un veau en or. Puis le peuple rend un culte à cette idole et il plonge dans la débauche en suivant les mœurs impures des peuples environnants. De ce fait, Dieu, le seul vrai Dieu, leur exprime sa juste colère en affirmant son intention de les châtier. Toutefois, Moïse prie en faveur du peuple. La dernière fois, nous avons appris ce qui s'est passé lorsque Moïse est descendu de la montagne pour rejoindre le peuple. Écoutons la suite des événements que notre lectrice va nous lire dans Exode chapitre 33, les versets 1 à 11.
L'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. » Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil. Personne ne mit ses parures. En effet, l'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, « Vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures, et l'on verra comment je vais vous traiter. » Alors les Israélites enlevèrent leurs parures à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, restait dans la tente.
Merci. Romuald, rappelez-nous ce qui s'est passé juste avant le récit que nous venons d'écouter.
Au cours de l'émission précédente, nous avons appris que lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, il a surpris, au pied de la montagne, le peuple se livrer à la débauche autour d'une idole faite d'or. Il a alors fait venir auprès de lui quelques hommes fidèles de la tribu des Lévites et il les a envoyés, épée à la main, punir le peuple. Quelques 3000 hommes ont trouvé la mort. Nous pouvons nous étonner de la sévérité de ce châtiment, mais il faut se rappeler que Dieu avait eu dans un premier temps l'intention d'exterminer le peuple entier, du fait de la gravité de son péché. Donc ce châtiment finalement mis en place est beaucoup moins sévère que celui qui avait été prévu initialement. et aussi tragique soit-il, il représente davantage une correction et un avertissement.
Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il existe d'autres conséquences liées à la désobéissance idolâtre du peuple.
Oui, Dieu déclare, par la bouche de Moïse, son intention de retirer du peuple sa présence unique, sa façon de se manifester auprès de ces gens de manière privilégiée. Il s'engage tout de même à les conduire vers la terre promise. Dieu va tenir sa parole, il va demeurer fidèle à l'alliance qu'il a établie avec son peuple. Toutefois, Dieu affirme que, vu l'état rebelle de ce peuple, il ne peut pas vivre en communion avec lui. Dieu va prendre ses distances.
Et je pense que le récit lu exprime bien cela, car l'attente de la rencontre se trouve dorénavant en dehors du camp, assez éloigné du peuple.
C'est exact, Yann. L'attente de la rencontre est un lieu où Dieu était tout particulièrement présent, d'une manière extraordinaire. Cette tente se trouvait au cœur du camp. Chaque tribu avait sa place autour d'elle. Le fait que cette tente de la rencontre était située au milieu du camp était symbolique. Elle rappelait que Dieu était avec son peuple. Cependant, dans le récit lu aujourd'hui, Dieu s'éloigne du peuple et sa tente est dressée en dehors du camp. On peut le dire, Dieu en cet instant n'habite plus avec son peuple.
Pourquoi cela est-il le cas?
C'est parce que Dieu est saint et juste, et qu'il ne peut pas cohabiter avec un peuple désobéissant, rebelle et idolâtre. Toutefois, je voudrais affirmer qu'en s'éloignant du peuple, Dieu lui exprime sa miséricorde.
Pourquoi?
Parce que Dieu demande à Moïse de dire au peuple, « Vous êtes un peuple rebelle. Si je marche et au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. » Donc Dieu s'éloigne du peuple pour le protéger. Si la tente ne se trouve plus au centre du camp, Dieu ne sera plus conduit à exterminer ce peuple du fait de sa conduite rebelle. Prenons l'illustration suivante. Lorsqu'on souffle sur un feu, l'oxygène l'alimente et les flammes deviennent encore plus intenses. Devant l'intensité des flammes, l'on risque de se brûler et il est préférable de s'éloigner de cette source de chaleur. La conduite rebelle et idolâtre du peuple est comme l'oxygène qui alimente le feu. Elle provoque la juste colère de Dieu. Et tout comme les flammes consomment le bois, la juste colère de Dieu cherche à détruire le mal et le malfaiteur. Si Dieu s'éloigne du camp, c'est pour que, dans l'intensité de sa colère, son peuple ne soit pas détruit. Dieu se montre donc miséricordieux, même lorsque sa colère a été provoquée.
Merci Romuald pour cette perspective intéressante qui nous oriente vers un Dieu juste, mais qui aime faire preuve de miséricorde envers son peuple. Je remarque aussi que Dieu demande au peuple que chacun enlève sa parure, et le peuple obéit. Quelle est l'importance de ce geste?
Une parure est une sorte de bijou ou d'ornement. On peut très bien imaginer que les gens ont mis ces parures pour participer aux fêtes idolâtres et à la débauche. Demander que ces parures soient enlevées revient à demander à ces gens de cesser leur conduite débauchée. Et si le peuple obéit, il s'agit d'un premier tout petit signe d'encouragement. Il s'agit d'un premier pas vers la repentance. De plus, nous apprenons que le peuple se prosterne à terre, chacun devant l'entrée de sa propre tente et à une distance convenable de la tente de la rencontre. Le peuple commence donc à prendre conscience du mal qu'il a commis et des conséquences que cette conduite entraîne. Ce geste, qui consiste à enlever sa parure, aide les gens à revenir de leur folie idolâtre et chacun commence à réfléchir à ses actes. Moïse va rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre. Le peuple est calme à présent. Chacun attend l'issue de cet entretien entre Dieu et Moïse. On peut très bien imaginer que les cœurs de beaucoup sont emplis de peur. Que va-t-il se passer?
Il faut attendre notre prochaine émission pour le découvrir, car nous nous pencherons sur la suite du récit. En attendant que Romuald revienne pour nous en dire plus, nous le remercions et lui disons au revoir.
Merci Yann, et à bientôt.
À présent, André est de retour parmi nous. Il va nous aider à comprendre la pertinence de ce récit pour nous aujourd'hui. André, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
André, de nos jours, Dieu ne se manifeste pas comme il a fait à l'époque de l'Exode et du séjour du peuple dans le désert. Dieu n'a plus une tente de la rencontre spéciale et il ne se révèle plus par le biais de nuages de poussière ou de feu. Que devons-nous donc apprendre de ce récit?
Les temps ont changé, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le même, saint, juste et pur. Il reste miséricordieux. Dieu demeure juste et saint, il est donc fondamental de ne pas rechercher le péché. Il est dangereux de s'adonner à l'idolâtrie, à l'immoralité et la rébellion. Il est dangereux de pratiquer ces choses parce que, encore de nos jours, elles provoquent et alimentent la juste colère de Dieu et nous pouvons en vivre les conséquences.
Merci pour cet avertissement. Dans le récit biblique lu aujourd'hui, nous apprenons que Dieu s'est éloigné de son peuple. Peut-il s'éloigner de nous aujourd'hui? Et comment le savoir si cela est le cas?
Prenons l'illustration suivante. Dans la vie, si quelqu'un nous blesse, si un ami nous offense et ne se remet pas en question, nous n'avons plus très envie de nous retrouver avec cette personne. La relation devient brisée et peut-être éviterons-nous cette personne autant que cela est possible. Nos fautes, surtout si nous ne nous en repentons pas, jettent un froid dans notre relation avec Dieu. Alors Dieu peut nous corriger en retirant certaines de ses bénédictions. Peut-être nous sentons-nous qu'il n'est plus aussi proche. Peut-être nous sentons-nous moins en paix, moins en joie. Peut-être ne nous sentons-nous plus son amour. S'il en est ainsi, il est possible que Dieu s'éloigne de nous à cause de nos fautes. Toutefois, je voudrais ajouter une remarque importante.
Je vous en prie, allez-y.
Nous pouvons ressentir un manque de paix, de joie ou d'amour pour d'autres raisons. Il ne faut pas en conclure alors qu'un tel état est systématiquement la conséquence de nos péchés.
Mais comment savoir si notre manque de paix ou de joie est dû à notre désobéissance ou à une toute autre raison?
Je pense qu'au fond de notre cœur, nous savons lorsque nous vivons en rébellion contre Dieu. Nous le savons lorsque nous nous obstinons à pratiquer le péché, tel que l'idolâtrie, l'immoralité ou le mensonge. Cependant, si nous demeurons aveugles à notre péché, nous pouvons prier et demander que l'Esprit de Dieu nous le montre. Nous pouvons également demander conseil à un chrétien mature.
Merci. Il nous reste quelques secondes pour une dernière leçon.
D'accord. Je voudrais simplement affirmer que si Dieu peut s'éloigner de nous, c'est pour éveiller en nous une prise de conscience et le désir de nous détourner du mal pour le rechercher lui seul.
Merci André, et à bientôt.
Je vous en prie et au revoir à tous.
Pour découvrir la suite des événements qui se sont déroulés dans le livre de l'Exode, je vous invite à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.